Du lundi au vendredi, entre 8h et 9h sur RJB, format A3.
Les énergies fossiles sont bientôt épuisées, la biodiversité s'étouffe, l'économie est de plus en plus fragile. Ne serait-ce pas bientôt la fin du monde?
On n'espère pas. Bah. Avant de devenir un survivaliste diplômé et de se terrer dans un bunker avec des tonnes de boîtes de conserve, découvrons ensemble ce qu'est la collapsologie.
Et pour en parler, nous recevons ce matin Michel-Maxime Aiguer, responsable transition intérieure au sein de l'association Pain pour le Prochain. Michel-Maxime Aiguer, bonjour.
Bonjour.
Alors, on l'entend de plus en plus, la fin du monde serait proche. Mais quand on parle de fin du monde, alors c'est pas vraiment l'apocalypse, hein, mais plutôt la fin du monde tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, c'est ça?
Alors bon, moi j'aime bien d'abord le mot apocalypse. Moi je pense qu'on vit quand même dans des temps apocalyptiques, mais pas justement au sens ordinaire du mot qui serait la fin du monde. Mais le mot apocalypse, ça veut dire dévoilement, révélation. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se révèle, c'est l'impasse d'un tout un système économique, d'un tout un modèle de développement qui est en fait, on pourrait dire, dopé aux énergies fossiles et qui justement se heurte aux limites de la biosphère, aux limites de la planète.
Ça veut dire qu'il y a des signes, là, les énergies fossiles de plus en plus rares, une biodiversité presque détruite, et puis une économie mondiale qui est complètement déséquilibrée et qui souffre. Ce sont justement des signes de cette apocalypse.
Ce sont les chevaliers de l'apocalypse.
Alors, ce sont des signes justement en fait, voilà, de ce système qui se heurte aux limites. Et on pourrait ajouter l'épuisement des ressources naturelles, toutes sortes de pollution, et puis surtout le réchauffement climatique, avec toute la multiplication de catastrophes naturelles qu'on connaît. Donc là, on a vraiment des chiffres, des batteries de chiffres impressionnants, mais les collapsologues, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, eux, ce qu'ils soulignent, c'est vraiment la responsabilité de l'être humain dans ces bouleversements. Et aujourd'hui, on parle d'anthropocène, anthropos, c'est-à-dire l'être humain, c'est-à-dire que nous serions entrés dans une nouvelle ère géologique qui serait justement marquée par l'impact déterminant des activités humaines sur le système Terre.
On est vraiment les seuls responsables?
Alors c'est évidemment complexe, mais c'est vrai que, prenons un signe, toutes les études montrent par exemple qu'en termes de changement climatique et de réchauffement climatique, l'élément humain, en particulier à partir de l'ère industrielle, est absolument déterminant. On parle aujourd'hui de 6e extinction des espèces, c'est pas comme les précédentes, il y a vraiment un impact vraiment très très fort de l'être humain. Vous voyez par exemple, on a vu récemment des études qui ont montré en France que dans les 20 dernières années, 30% des oiseaux avaient disparu dans les campagnes. Et ça, c'est complètement lié à l'agrochimie et à un certain type d'agriculture.
Vous avez parlé de collapsologue tout à l'heure, les tenants de la collapsologie. Si on fait un petit peu d'étymologie, il regroupe quoi ce terme-là?
Alors, vous avez dans collapsologie, vous avez collapse. Alors, le collapse, ça vient du latin. Le collapsus, en fait, c'est ce qui tombe, c'est ce qui tombe en un seul bloc, qu'a donné en anglais tout collapse, voilà, s'effondrer, s'écrouler. Et puis logos, c'est-à-dire, en fait, c'est l'étude. Donc, la collapsologie, c'est comme une nouvelle science, une étude très transdisciplinaire, parce qu'on fait appel à toutes sortes de notions dans plein de domaines, pour justement étudier les risques d'effondrement de notre civilisation techno-industrielle et en fait de ce qui pourrait lui succéder, si vous voulez.
Justement, vous parlez d'effondrement industriel. Finalement, ça veut dire quoi? Le monde est en train de s'écrouler sur lui-même?
Alors, quand on parle d'effondrement, c'est vrai qu'il faut plutôt voir ça comme une forme d'horizon, de ce vers quoi on va déjà et qui pourrait se passer d'une manière encore plus grave. Ça veut simplement dire que ce mode de développement, ce système économique dans lequel on est, n'est simplement pas durable, ne peut pas durer, nous entraîne dans le mur. Vous savez, un des signes, par exemple, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement de la Terre. On s'en approche d'ailleurs cette année. C'est-à-dire, c'est le moment où l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles de la planète que la planète peut produire en une année. En 1990, c'était le 7 décembre, et aujourd'hui, c'est le 2 août. Donc, voyez, et on pourrait parler de l'empreinte écologique. Il faut une planète et demie pour que l'humanité puisse satisfaire ses besoins de consommation, absorber ses déchets, etc., etc. Et donc, c'est simplement une façon de dire que si on regarde finalement tous ces chiffres, qu'on les met tous ensemble parce que tout est lié, eh bien, le fait aussi qu'il y a bientôt plus de plastique dans les océans que de poissons, eh bien, qu'on est vraiment déjà dans une forme d'effondrement, c'est-à-dire que ce système n'est simplement pas durable, ne peut pas continuer.
Un collapsologue est par définition un pessimiste.
Non, c'est-à-dire que je pense que
c'est... Oui, il y a un optimisme quand même.
Non, c'est-à-dire que c'est un réaliste. Je crois que ce qui est extrêmement important aujourd'hui, les collapsologues, alors, ne sont pas simplement là pour faire peur à la population et pour... voilà. Non, leur vision, leur idée, c'est de dire, osons regarder la réalité en face, osons regarder tous ces chiffres, parce qu'on est quand même dans beaucoup, beaucoup aujourd'hui de déni de réalité, en particulier dans le mode politique, et essayons ensuite de voir, par rapport à ça, eh bien, les mesures qui s'imposent. Donc c'est vraiment plutôt un appel à la lucidité. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que la lucidité, ben, toute seule, évidemment, elle est très désespérante, mais il y a beaucoup de collapsologues qui ont en même temps une dimension d'espérance, parce qu'ils montrent que, voilà, il y a quand même des choses à faire.
Ils font des enfants, les collapsologues ?
Oui, bien sûr.
Ça veut dire que la fin...
Il ne faut pas voir les choses comme si tout s'arrête d'un coup. Je crois que c'est vraiment de se dire, mais attendez, bon, si ce système nous mène dans le mur, ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour atténuer les effets, puis surtout pour changer de direction ?
Non, mais en même temps, heureusement que vous êtes là, parce qu'il faut bien quelqu'un qui tire de temps en temps la sonnette d'alarme.
Oui, et le problème, c'est que la sonnette d'alarme, elle a été tirée depuis longtemps, hein. Je veux dire, en 1972, vous avez le rapport Meadows, Halte à la croissance du Club de Robe, qui déjà annonçait pratiquement toutes les impasses au niveau écologique, économique dans lesquelles nous sommes maintenant, mais personne n'a entendu, n'a écouté. Donc c'est un petit peu ça le problème. Je parlais de déni de réalité, c'est qu'il reste une grande partie et de la population et surtout des élites du monde économique et politique, qui, pour plein de raisons liées au jeu de pouvoir ou d'intérêt, ne veut pas voir les choses en face.
Jamais 203. Format A3.
Nous sommes de retour avec notre invité, Michel-Maxime Aiguer, responsable transition intérieure au sein de l'association PIN pour le prochain. C'est notre invité ce matin dans Format A3.
La collapsologie, ou le fait de se préparer à l'effondrement du monde tel qu'on le connaît, c'est le sujet du jour.
Michel-Maxime Aiguer, donc la collapsologie, c'est une manière de se préparer à la fin du monde, telle qu'on la connaît, mais c'est pas du tout comme les survivalistes le feraient.
Alors les survivalistes, vous l'avez évoqué en début d'émission, c'est effectivement toutes ces personnes qui se préparent en développant des techniques de survie, en stockant de la nourriture, des armes, en construisant des abris, etc. Alors non, c'est vrai que dans la perspective des collapsologues, on n'est pas dans ces démarches finalement très très individuelles où il s'agit avant tout d'essayer de sauver sa peau, mais vraiment ils sont souvent proches de ce mouvement international de la transition, qui est ce mouvement qui est né en Angleterre en 2006 et qui aujourd'hui finalement s'incarne dans des milliers d'initiatives, dans des dizaines de pays, et où là c'est beaucoup plus de se dire, par rapport à tout ce qui se passe, de construire justement des territoires locaux, c'est-à-dire ça peut être des villes, ça peut être des quartiers, ça peut être des villages, comme on dit, très riches en relations sociales et pauvres en carbone, en émissions de gaz à effet de serre, et qui sont résilients, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de faire face aux effondrements, mais qui sont surtout sont créatifs, c'est-à-dire qui créent des alternatives, des nouveaux modes de vivre ensemble, entre êtres humains et avec la Terre, à travers des nouvelles formes, vous savez, l'agriculture de proximité, l'approvisionnement énergétique collectif, des monnaies complémentaires, des autres formes d'éducation, un petit peu finalement tout ce dont un film comme Demain, qui a eu beaucoup de succès, a été l'expression.
C'est une approche collective, hein. Il y a plusieurs associations finalement qui se rejoignent et qui tirent un petit peu cette sonnette d'alarme.
Voilà, alors ceux qui tirent la sonnette d'alarme et qui surtout développent ces alternatives, eh bien effectivement on se rend compte que tout ça, si vous voulez, pour répondre à ces défis, on ne peut pas le faire uniquement de manière individuelle et personnelle, par exemple, même si ça reste très important à travers tous les éco-gestes au quotidien qu'on peut faire, mais que ça suppose justement de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble en recréant du tissu social et communautaire au plan local. Parce que voilà, on peut pas simplement, bien sûr il faut continuer à travailler au niveau global et international, mais on peut pas simplement attendre des réponses du haut parce qu'elles prennent beaucoup de temps, elles sont difficiles. Mais en fait voilà, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup beaucoup de choses au plan local, mais à partir du moment où on se met ensemble, parce que c'est aussi là, au niveau local, qu'on peut générer des solutions qui vont être adaptées à notre réalité, puis surtout qu'on pourra avoir un vrai pouvoir, un vrai impact sur notre vie.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la sonnette d'alarme, elle est tirée depuis pas mal d'années, début des années 70, avec les gens au pouvoir qui, justement, pris dans des jeux de pouvoir, d'argent, etc., rejettent toujours la mission sur les prochaines générations. Hein. Faudrait faire la révolution, finalement.
Bah écoutez, alors c'est intéressant que vous utilisiez ce mot de révolution. Je ferai juste une petite référence à un texte qui a quand même beaucoup marqué et qui a beaucoup d'impact. C'est l'encyclique Laudato Si du pape François qui lui parle de révolution culturelle courageuse quand ils disent de ce qu'ils ont à faire. Et récemment, le Dalai Lama a publié un livre pour les jeunes générations en les appelant à faire la révolution. Alors c'est vrai qu'il faut entendre cette dimension de révolution, non pas au sens classique du terme comme celle qu'on a connue avec des sites, parce qu'on n'est pas vraiment là, si vous voulez, dans des nouvelles, oui, ou des nouvelles idéologies. On est plutôt dans révolution au sens vraiment d'un changement assez radical, à la fois non seulement de nos modes de vie, mais surtout aussi de notre imaginaire, c'est-à-dire de notre façon de voir l'avenir, de notre façon de concevoir le monde. Et c'est pour ça, quand on parle de transition, il y a transire, ça veut dire le latin, moi j'aime bien l'étymologie, ce qui veut dire aller au-delà. Et aller au-delà, ben c'est justement aller au-delà d'un système de valeurs qui est finalement très matérialiste. Ça veut aussi dire aller au-delà de tous ces sentiments d'impuissance et de découragement qui sont très répandus dans notre société, mais ça veut aussi dire aussi aller au-delà d'une certaine vision de la nature qui la considère uniquement comme un stock de ressources à notre disposition. Donc il y a vraiment, c'est vraiment, je crois que c'est, on peut pas évidemment inciter ou encourager les gens au changement uniquement en leur faisant peur. Et c'est peut-être un peu une des limites de la collapsologie, c'est que finalement on génère quelque chose qui peut susciter la peur et la peur n'est pas très mobilisatrice. Mais c'est plutôt de travailler sur, oui, changeons notre imaginaire, découvrons qu'il y a un autre mode de vie, des autres modes d'être ensemble, un autre type de société possible, alors peut-être moins matérialiste, moins centré sur la consommation, moins lié et dépendant du pétrole, mais où on aura une qualité de vie, une qualité d'être qui sera en fait tout aussi bonne, voire supérieure.
Et puis, rapidement, pour terminer sur la collapsologie, vous, en tant qu'être humain, les autres êtres humains, vous en pensez quoi? Vous en êtes déçu du chemin qu'on est arrivé à prendre?
Non, écoutez, je ne dirais pas ça comme ça. En fait, moi, c'est vrai que je suis triste et je suis en plus que ça, souvent en colère devant les élites politiques, économiques, les grandes multinationales ou tous les États, finalement, qui, alors même qu'ils ont toutes les données sous les yeux, sont incapables de prendre les mesures qui s'imposent pour le bien commun, la santé de la Terre.
Ils sont capables. Les
générations futures, oui, voilà. Mais en fait, voilà. Mais en même temps, oui, bien sûr. Et justement, parce qu'ils préfèrent la défense de leurs intérêts propres et à court terme. Mais si on parle de l'humain, alors moi, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'anime, c'est que je garde une foi, on pourrait dire, indestructible dans sa capacité à changer. Et je suis vraiment impressionné aujourd'hui par le nombre de personnes et le nombre de groupes, certes encore minoritaires, mais qui s'engagent dans et pour des changements, au plan personnel, au plan collectif. Tout ce foisonnement d'initiatives, justement, de transition, dont un film comme Demain a été l'expression, et qui montre justement qu'un autre monde est possible. Et je suis absolument aussi, c'est ma conviction, qu'il y a dans l'être humain, moi, ce que j'aime bien appeler une personne secrète indemne, qui est justement capable de relations plus harmonieuses avec les autres et avec la Terre. Et c'est cette part qu'il faut éveiller, c'est cette part qu'il faut cultiver. Mais ça, évidemment, c'est tout un chemin de vie, c'est un labeur. Et c'est ce chemin vers plus de cohérence, simplement, entre nos valeurs et puis notre mode d'être et notre mode de vie.